explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais ?
Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je suis prêt.
Daniel Fievé.
Imaginez une grande bibliothèque avec de très anciens manuscrits, vieux de 18 000 ans. Oui, je sais, l'écriture n'avait pas encore été inventée, mais je vous demande d'imaginer. Sur ces vieux livres sont inscrits l'état de la planète, sa température, la composition de son atmosphère, et ce, un peu partout à la surface du globe. Un trésor inestimable pour les scientifiques et pour l'humanité en général. Mais voilà qu'un gigantesque incendie se déclare. Les vieux manuscrits sont menacés par les flammes. Que faudrait-il faire alors ? S'en emparer le plus vite possible pour les mettre en lieu sûr, à l'abri. C'est précisément dans cet esprit qu'a été imaginé le projet Ice Memory. Pas de vieux registres poussiéreux, mais des glaciers qui ont emprisonné d'innombrables données sur notre planète. Menacés par le réchauffement, ces glaciers sont en train de fondre, libérant à jamais leurs précieuses informations. Mais comment mettre à l'abri ces archives naturelles de la Terre avant qu'il ne soit trop tard ? C'est précisément ce que nous allons voir avec nos invités. Aujourd'hui, nous partons bivouaquer sur les glaciers de la planète pour tenter de préserver la mémoire des glaces.
Mes amis, je ne sais où nous allons.
Sur France Inter.
Parfait, alors ça vous dit de faire un tour, allez-y.
Le temps d'un bivouac.
Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Jérôme Chaplaz et Nicolas Caillon.
Bonjour.
Bonjour. Vous travaillez tous les deux à l'Institut des géosciences de l'environnement. Jérôme Chaplaz, vous êtes directeur de recherche à CNRS, coordinateur de ce grand projet international Ice Memory qui vise donc à préserver la mémoire des glaciers du monde entier. Nicolas Caillon, ingénieur de recherche au CNRS, vous étiez il y a un mois sur un glacier qui culmine à 6400 mètres d'altitude en Bolivie pour prélever des carottes de glace. Et il y a un an, vous aviez participé à une expédition du même type dans les Alpes. Vous allez donc tous les deux nous raconter comment se déroulent ces expéditions et comment vous souhaitez préserver ces glaces pour les siècles, voire les millénaires à venir. Nous sommes en direct et les auditeurs peuvent vous adresser une question via la page de l'émission sur franceinter.fr ou sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac. En deuxième heure, nous resterons en montagne, mais pour évoquer un drame qui a marqué l'histoire de l'alpinisme, survenu au cœur de l'hiver 1956, Jean-Vincent Don et François Henry, deux jeunes alpinistes, se sont retrouvés piégés sur le Mont Blanc. Leur calvaire a pu être suivi à la jumelle depuis Chamonix. Toute la France a assisté avec effroi à leur calvaire. Notre invité, l'historien et écrivain Yves Balu, a enquêté sur ce drame. Il nous expliquera pourquoi les secours se sont enlisés et comment cette histoire a engendré en France une réorganisation totale des secours en montagne. Voilà pour le sommaire du jour. Cette émission est réalisée par Anne-Sophie Ladonne. Elle a été préparée par Hugo Struna et Camille Bernard.
Oh, quel beau soleil! Bonjour, je suis Nicolas, un scientifique de la mission Ice Memory. Je vais vous faire une petite visite du camp de base. Alors là, nous sommes dans la partie dortoir. On aperçoit Vladimir là-bas, qui est en train de préparer son paquetage, parce qu'il est, son ascension est prévue cet après-midi. On va aller plus loin, on va aller là où se trouvent les tentes de vie. Dans cette première tente, en forme de tipi, on a la cuisine. C'est ici que Francisco nous prépare des petits plats excellents. On continue ici dans cette zone, on a toutes ces caisses blanches. Ben, c'est ces caisses-là qui sont destinées à recevoir les carottes de glace. Et enfin, quand même, le plus important, l'Illimani. Alors c'est pour lui qu'on est ici, hein. On va carotter tout là-haut pour ce projet Ice Memory qui nous tient à cœur.
On va carotter tout là-haut, il va falloir nous expliquer ce dont il s'agit. Nicolas Caillon, c'est vous hein, qui étiez il y a quelques semaines sur ce glacier en Bolivie. L'Illimani, c'est le nom de ce glacier. Vous nous faisiez donc une petite visite du camp de base. À quelle altitude se trouvait-il exactement ce camp de base ?
Alors le camp de base, il était à 4500 mètres. Il faut savoir que c'est presque l'altitude du Mont Blanc, donc des conditions déjà physiologiques assez extrêmes pour nous, mais on était très très bien installés, c'était assez confortable.
Et alors il se trouve où le glacier Illimani en question ?
Alors le glacier Illimani se trouve en haut d'une montagne qui culmine à 6400 mètres, à 72 km de La Paz, et c'est la montagne qu'on voit de La Paz quand on quand on est à La Paz, on voit très très bien les Limani.
Donc entre le bassin humide amazonien et le plateau bolivien.
Absolument, c'est ça. Ouais. Sur l'altiplano. Quoi. Ouais.
Ouais. Décrivez-nous un peu le décor, là, qu'on y soit dans ce lieu.
C'est complètement magique. Alors on est à 4500 mètres d'altitude. On est quand même à 17 degrés sud, donc il n'y a pas de neige hein, à 4500 mètres d'altitude. La neige, on l'aperçoit quand on lève la tête et qu'on regarde le sommet, les Limani. C'est une montagne qui est magnifique, comme toutes les montagnes de la Cordillère Royale, hein, d'ailleurs, qui sont pas loin de La Paz. Et c'est complètement magique. On a des grandes prairies avec des lamas qui sont là, quelques bergères qui nous ont tenu compagnie pendant tout le temps de l'expédition, et puis des troupeaux de moutons, quelques cochons sauvages aussi. On n'a pas l'habitude d'évoluer sur, ouais, sur ce type de
C'est un cadre intéressant hein, pour un chercheur d'avoir la chance finalement de pouvoir aller travailler dans ces coins du globe.
Ah bon, on a déjà un métier nous qui est absolument génial et ensuite si en plus on a l'opportunité de côtoyer ces endroits qui sont magnifiques autant à regarder que aussi les gens qui sont là-bas hein, qu'on rencontre, bah, ouais, on a de la chance, on est heureux.
Jérôme Chaplaz, un forage avait déjà été effectué, je crois que c'était en 1999 sur ce glacier, et on s'était aperçu à cette occasion-là qu'il renfermait des informations précieuses et qu'il remontait loin dans le temps, ce glacier.
C'est une particularité du glacier Illimani. La plupart des glaciers que l'on rencontre dans ces zones de montagne qui sont plutôt de basse latitude remontent à quelques centaines, à quelques milliers d'années. On a la chance avec celui-là de remonter à 18 000 ans, et 18 000 ans, c'est très important parce qu'on remonte à ce qu'on appelle le dernier maximum glaciaire, la dernière glaciation qu'a connue la planète. Donc on peut, grâce à ce glacier, étudier quelque part la respiration de la planète sur des changements climatiques qui sont majeurs. Mmh. On quitte une glaciation, on va vers une période chaude telle que celle que l'on vit depuis 11 000 ans, et entre les deux, en température moyenne mondiale, c'est 5 degrés de différence. Ouais. Donc c'est colossal.
Pourquoi celui-ci remonte si loin d'une certaine manière ?
En fait, l'âge d'un glacier dépend de plusieurs paramètres. Le premier, c'est la quantité de neige qui tombe à sa surface chaque année. Ensuite, c'est son épaisseur. On comprend bien que plus l'épaisseur est importante, plus on remontera loin dans le temps. Et un glacier, c'est pas quelque chose d'inerte. La glace s'écoule en permanence vers le bas sous l'effet de la gravité. Donc, si on choisit un glacier qui est placé typiquement dans une cuvette, on a de la chance que la gravité puisse pas jouer son rôle et que, au fond du glacier, on retrouve de la glace très ancienne, ce qui est le cas de l'Illimani.
C'est pour cette raison que ce glacier a été choisi dans le cadre de votre grand projet Ice Memory. Expliquez un peu le principe de ce projet.
Ben, je crois que vous l'avez très bien résumé en introduction. L'objectif d'Ice Memory, c'est de créer une archive mondiale de carottes de glace issues des glaciers qui sont aujourd'hui en danger en raison du réchauffement climatique. Et cette archive, on va la créer pour la science de demain. Pour la science que les générations futures seront capables de produire avec de nouvelles technologies, avec de nouvelles idées. En revanche, elles n'auront plus la matière première si nous, générations observant le réchauffement climatique, ne prenons pas nos responsabilités de mettre de la matière de côté.
Et autrement dit, préserver cette glace avant qu'elle ne fonde pour pouvoir la faire parler avec des technologies qu'on ne connaît pas encore dans des centaines, voire des milliers d'années.
C'est une des particularités de la science, elle est imprédictible. Si vous me demandez aujourd'hui quelle science on conduira sur ces carottes de glace dans 100 ans, je suis incapable de vous répondre. La particularité, c'est également qu'on mette ces carottes en Antarctique, parce que l'Antarctique, c'est une terre de science, c'est une terre de paix, c'est une terre où les revendications territoriales sont gelées. Donc on va remettre ces carottes au bien de l'humanité.
Ouais. Puis il n'y a pas que les revendications qui sont gelées, il y a aussi les conditions climatiques qui font qu'on est sûr qu'a priori, si ça ne fond pas, c'est là que ça,
oui,
ça sera.
Ça a été un peu notre réflexion de base, c'est comment garantir que ces carottes de glace restent gelées à des horizons de décennies à siècles. Ouais. L'Antarctique, effectivement, est un congélateur naturel, c'est le meilleur au monde.
Alors cette glace des glaciers, ce n'est pas uniquement de l'eau liquide qui s'est figée, hein, ce n'est pas un fleuve qui s'est pris comme ça dans la glace, c'est plus subtil que ça, la formation d'un glacier. C'est plus poétique aussi.
À l'origine de la glace se trouve une multitude de flocons de neige venus du ciel. Au fil du temps, ils s'accumulent et deviennent de plus en plus compacts. On les appelle alors névés. Sous l'effet de la pression, les flocons se rassemblent et sont entraînés vers le socle rocheux. Plusieurs centaines à milliers d'années seront nécessaires pour que neige devienne glace.
Jérôme Chaplaz, c'est si lent que ça, le processus de formation des glaciers ?
La formation d'un glacier, ça peut prendre énormément de temps. Je vais vous prendre un extrême. Au milieu du plateau antarctique, à la base franco-italienne Concordia, il faut 2000 ans pour qu'un flocon de neige tombé en surface se transforme en glace. Mmh. C'est une échelle absolument considérable. Si on se projette il y a 20 000 ans, en pleine période glaciaire, c'était carrément 6 000 ans pour qu'un flocon atteigne l'état de glace.
Mais pourtant, un flocon de neige, on imagine que c'est déjà de la glace, des cristaux de glace. Alors, qu'est-ce que vous appelez se transformer en glace ?
Alors, c'est de la glace, mais qui n'est pas compactée. Ouais. Des cristaux de neige, ils sont agrégés les uns avec les autres, mais il y a l'air peut circuler entre eux. Il y a ce qu'on appelle de la porosité, une porosité qui est ouverte. Donc, les molécules gazeuses de l'atmosphère peuvent circuler entre ces flocons. La transformation en glace, c'est quand cette porosité a disparu, qu'elle est, comme on dit, fermée, mmh. elle est isolé de l'atmosphère.
Alors Nicolas Caillon, on l'a compris, le principal objectif de cette opération, de cette expédition en Bolivie sur le glacier, c'était de rapporter de la glace. L'idée est simple, mais une fois qu'on y est, c'est pas si simple et pas si facile que ça à mettre en œuvre. Dès votre arrivée, vous avez dû faire face à des conditions climatiques extrêmes en plus.
Bah oui, c'est vrai qu'on avait choisi cette période de mai-juin parce que c'est la saison sèche à 17 degrés sud sur la cordillère des Andes. Là, c'est la saison sèche et malheureusement, il y a des années parfois un petit peu plus compliqué. Et cette année était une année compliquée puisque la saison sèche est venue très tardivement. Et on devait monter le 22 mai. On a eu de la pluie pendant 10 jours. Ça a retardé considérablement les manips de carottage là-haut. Et ensuite, ça a compliqué également le forage là-haut puisqu'on avait prévu de faire 3 carottes. On n'a fait que 2 du fait de ces conditions.
Vous aviez beaucoup de matériel à transporter?
Énormément de matériel à transporter. Du matériel pour faire le carottage là-haut, de la nourriture, aussi du matériel pour être en dans un minimum de confort. Et puis après, il y avait toute la glace à redescendre. Ouais. Je crois qu'on a un peu plus de 7 tonnes en tout de matériel transporté, aussi bien à l'aller qu'en montant.
Donc vous avez réussi, malgré les conditions climatiques un peu périlleuses, vous avez réussi à atteindre le sommet. Vous êtes allé tout en haut, c'est 6200 mètres d'altitude.
Alors moi, je fais partie des 15 scientifiques qui étaient là-bas pour organiser la mission. Je ne suis pas un grand alpiniste. Donc moi, je me suis arrêté à 5005 parce que j'étais à la coordination avec d'autres collègues du camp bas et puis aussi à 5005 du camp intermédiaire.
C'est déjà pas mal. Hein.
Oh, c'est déjà super.
J'imagine aussi qu'au niveau de l'altitude, du manque d'oxygène, vous l'avez ressenti à cette altitude.
On l'a ressenti, mais on est très très bien préparé. On est suivi par une équipe de Chamonix, là, dirigée par l'équipe d'Ifremont, qui nous prépare et puis qui nous aussi bien à faire des gestes de premier secours, mais aussi à s'occuper de soi-même pour s'économiser. Et puis on s'est acclimaté, nous, pendant 15 jours avant de monter sur les altitudes un peu de plus de 4005. Donc, nos corps étaient prêts et on était tous prêts aussi mentalement et une belle équipe.
Et puis ensuite, il y a ces opérations, vous l'avez dit plusieurs fois, de carottage. Vous allez carotter là-haut. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement que de carotter la glace ?
Ah ben c'est finalement assez simple. Hein. Il suffit de descendre un tube vide qui va avec une vis sans fin qui va faire tourner les couteaux à son extrémité la plus basse et toujours dans le même trou d'aller chercher la glace en profondeur jusqu'à atteindre le socle rocheux. Donc on remonte des sections de carottes qui font chacune d'entre elles 1 mètre et 10 cm de diamètre et puis on les remonte par section de 1 mètre.
Et là, on descend jusqu'où comme ça alors ?
Alors là, la première carotte c'est 137 mètres, on a atteint le socle rocheux. Là on commence à l'apercevoir parce qu'on a une roche, une glace un peu verdâtre, et puis quelques cailloux aussi qui constituent la glace, et puis la deuxième carotte, 134 mètres.
Ouais. Donc effectivement, c'est par tronçon de 1 mètre, mais ça descend en bas, et on imagine que c'est un appareillage. Faut voir, hein, les conditions là-haut, c'est pas forcément évident de faire ça, de forer si profondément.
Non, c'est très compliqué. Là, on a un carottier qui est spécialement conçu pour ces conditions d'altitude, donc assez léger, assez simple à mettre en œuvre. Simple, je dis ça entre guillemets, hein, parce que c'est quand même
modeste.
Globalement compliqué. Et il s'agit, donc on a un câble qui descend au fur et à mesure dans ce trou, avec ce carottier à son extrémité. L'engin, il fait à peu près 3 mètres de hauteur, donc on ne peut pas le déployer dans une tente, il faut le déployer à l'extérieur. Ça veut dire que quand on est sous le vent, dans le vent, ça c'est aussi difficile. On a les mains qui sont froides, on est complètement couvert. Enfin bon, voilà, des conditions difficiles, mais on l'a fait.
Ben oui, vous l'avez fait, et bien fait. Suite de notre bivouac sur les glaciers du monde. Dans un instant, nous sommes en direct et pour nous adresser un message ou une question, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac.
Time is over.
Away, away, IBI sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Cette foreuse entame un plongeon de 137 mètres dans les entrailles du Nevado Illimani. Une heure plus tard, elle arrache à l'obscurité de ce glacier millénaire une carotte, faite de centaines de couches de glace superposées.
Lorsque vous retirez un échantillon de glacier, vous creusez dans l'histoire du monde. Vous pouvez trouver d'anciens échantillons. Ici, dans les Andes, nous en avons qui sont vieux de 18 000 ans. Aujourd'hui, avec les nouvelles perforations réalisées, nous pouvons prouver que la température du glacier a augmenté de 0,7 degrés en 18 ans.
Extrait d'un reportage diffusé sur TV5 Monde le 23 juin dernier, Jérôme Chaplaz. Les conditions de forage, on l'a peut-être pas assez dit, hein, mais vous me le disiez là pendant la musique, c'est difficile là-haut, hein, c'est vraiment difficile, faut le dire.
Ben pour nos éditeurs qui ont l'habitude d'aller en montagne, un sommet de montagne, c'est on y monte, on y reste quelques minutes, on se prend en photo et on redescend. Là, il faut imaginer quand même qu'une partie de l'équipe est restée 10 jours là-haut. 10 jours à 6300 mètres d'altitude, manque d'oxygène, 2 jours de tempête, on reste dans son duvet, on attend que ça passe, il fait moins 30. Je veux dire, on parle de conditions où l'humain est un peu poussé à ses limites. Et je pense qu'effectivement, l'ensemble de l'équipe a atteint ses limites psychologiques et physiques.
D'autant que le matériel à transporter, hein, ne serait-ce que pour cette machine, pour forage, il y a des portions qui sont très lourdes qu'on ne peut pas diviser en plusieurs personnes.
C'est considérable. Nicolas disait 7500 kilos transportés vers le haut et vers le bas au total. Parmi eux, imaginez un treuil avec 200 mètres de câble dessus. Il pèse 35 kilos. Ça veut dire qu'un porteur a mis 35 kilos sur son dos et parti de 4500 mètres et monté à 6300 mètres.
Ouais. Nicolas Caillon, vous les avez éprouvées, hein, ces conditions rudes en haut de la montagne.
Ouais, on les a éprouvées. Parfois, c'est difficile. D'autres fois, c'est rigolo. J'ai cette petite anecdote là où on était avec nos collègues Bruno et Thomas et on essayait par radio de savoir combien de carottes il nous restait à redescendre. Et on a mis à peu près, je sais pas, plusieurs heures, je pense, à faire 80 moins 42. Et il y en a un qui a trouvé 8 à un moment donné. Donc, il y a aussi... C'est vrai que physiquement, on est un petit peu atteint à ces altitudes, mais intellectuellement aussi, on réfléchit plus lentement.
Ça, c'est le manque d'oxygène qui fait qu'on est moins lucide.
Voilà, c'est vrai que l'homme, il n'est pas fait pour vivre à plus de 5000 mètres. Il y a très peu de gens sur la Terre qui vivent à plus de ces altitudes. On est en hypoxie, c'est-à-dire notre corps, il est plus habitué à avoir si peu d'oxygène que ça. Et ça se ressent sur le physique, sur les conditions physiques, mais aussi mentales et psychiques.
Ouais. C'est aussi une aventure humaine, hein, quand vous partez. C'est-à-dire, vous connaissez toute l'équipe au moment où vous partez ou sur place, alors que vous allez devoir affronter des conditions très rudes, il faut aussi apprendre à connaître une partie de l'équipage.
C'est vrai, c'est vraiment une expérience humaine incroyable. Alors, la plupart d'entre nous avions déjà carotté sur le col du Dôme l'année dernière sur le Mont Blanc. Donc la moitié de l'équipe était déjà bien soudée. Mais là on était 15, hein, on était un certain nombre. Et c'est vrai qu'en partant, on a appris à se connaître lors de l'acclimatation. Moi j'ai tendance à dire un peu que je suis parti avec des collègues et je suis revenu avec des amis. Quoi, parce que c'est... Il s'est passé des choses très fortes. Parfois, un regard suffisait pour qu'on comprenne que là, il fallait intervenir ou il fallait faire quelque chose. Ouais. Parce qu'on s'économisait sur les paroles et aussi sur les gestes. Donc, on déploie des stratagèmes pour se comprendre. Et puis, parfois, les regards suffisent et des émotions très, très fortes passent entre nous. Ouais.
Et puis, des rencontres aussi avec les Boliviens, la population locale, une culture.
C'est vrai qu'habituellement, nous, dans notre laboratoire, on est plus habitués à aller sur des terrains de jeu comme l'Antarctique où la logistique est faite pour nous. Et puis, on est entre nous. Là, cette fois-ci, on était en Bolivie et puis, il a fallu qu'on s'organise avec les gens qui habitent l'altiplano et qui allaient qu'on avait demandé d'assurer le portage du matériel et ça s'est fait un peu difficilement parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas les mêmes règles que nous, enfin pas les mêmes comment dire, ils travaillent pas comme nous, mais petit à petit on a appris à travailler ensemble et là c'est pareil, on a rencontré des gens très très forts, aussi bien mentalement que physiquement, et ils n'étaient pas là que pour l'argent. Je pense qu'ils étaient aussi très très charmés par le projet, et on a vécu une belle aventure aussi avec les gens des autochtones.
Quoi. Un chaman, comment on dit pour un chaman, bénit la montagne, en tout cas, fait ce qu'il fallait pour que la chance soit avec vous.
Ah oui, un moment incroyable, hein, on était sur l'installation du camp de base, et puis d'un seul coup, on voit trois Boliviens du village juste en dessous qui arrivent avec un lama, et puis ils posent le lama au sol, et avec un coup paf, il tranche la gorge, on n'était pas du tout prévenus et on s'est retrouvé là sur une cérémonie à égorger un lama en face de la montagne, le chaman a récupéré son sang et puis a envoyé le sang vers la montagne pour que ça nous porte bonheur, ça nous a aussi servi de nourriture pendant la semaine qui a suivi.
Jérôme Chaplaz, dans quelle mesure ce glacier précisément, celui-ci, est en danger ?
Il est, comme l'immense majorité des glaciers à la surface du monde, la température à l'intérieur du glacier a pu être mesurée en 1999. Elle a été remesurée dans un des trous de forage réalisés là au mois de juin. Et on voit un réchauffement de presque 1 degré Celsius entre les deux. Donc on voit réellement, physiquement, le glacier se réchauffer. Alors pour nous, glaciologues qui étudions les carottes de glace, l'enjeu, il n'est pas que le glacier disparaisse. Il est que la surface du glacier atteigne une température positive systématiquement en été, faisant que de l'eau de fonte se produise et ensuite percole à l'intérieur des couches inférieures.
C'est-à-dire que le plus gros des dégâts, on ne le voit pas.
C'est ce on ne le voit pas, tout à fait. Nous, on a des enregistrements qui sont dans des couches de neige. Il suffit que de l'eau passe sur ces couches et c'est comme si on efface une bande enregistreuse. On perd l'information et pour nous, c'est inéluctable. Une fois que cette information a été perdue, on ne peut pas la reproduire.
Donc, c'est en ça qu'il est urgent d'agir. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement qu'ils sont en train de disparaître, c'est qu'ils sont en train de se vider des informations qu'ils contiennent.
Ils se vident de leur substance et notre rôle, c'est effectivement d'intervenir avant cela.
Et qu'en est-il des glaciers dans les Alpes? Ils sont plus ou moins bien barrés que ceux de Bolivie?
Ceux dans les Alpes sont un bon exemple de ce qui se passe aujourd'hui. Si on prend l'ensemble des glaciers des Alpes, à l'échelle des derniers 100 ans, 150 ans, ont perdu 50% de leur masse. Donc vous imaginez une cure d'amaigrissement de la moitié du glacier. Quoi.
Ouais.
C'est considérable. Alors une partie de cette évolution est une évolution naturelle. Les glaciers quittaient ce qu'on appelle le petit âge de glace il y a 150 ans, qui était une période naturellement froide en Europe.
Donc là, ce n'est pas lié au changement climatique?
Non,
à l'effet de serre.
Voilà, une partie de cette évolution est une évolution tout à fait naturelle. En revanche, depuis 30 à 40 ans, c'est clairement l'impact de l'augmentation des gaz à effet de serre et du réchauffement associé qui aujourd'hui conduit ces glaciers à perdre de la masse.
Ouais. Et un recul qui se voit hein, à l'œil nu. Ici, nous sommes sur le glacier de Sarène, au sommet de la station de ski des Alpes d'Huez. Et les habitués sont témoins du recul du glacier.
Là, on est pratiquement au centre de la partie supérieure du glacier, là, qui s'est coupé en deux. On a perdu à peu près une centaine de mètres d'épaisseur. Il faut imaginer que les sommets rocheux qu'on voit juste au-dessus de nous, ils émergeaient à peine au début du XXe siècle.
Et plus récemment, tiens, regarde. Est-ce que tu devines une marque blanche dans les rochers en face de nous?
Oui,
un peu effacée en haut.
Oui.
Ben ça, c'était un repère qui a servi à Manu pour de la photogrammétrie. Il a été peint au ras de la glace en
2009.
2009. Il y a quoi? Il y a une 12 à 15 mètres.
J'allais dire presque 20, quoi.
Ouais.
7 ans.
Emmanuel Thibert-Xavier Ravana, deux chercheurs grenoblois, dans le Zoom de la rédaction le 15 novembre 2016 sur France Inter. Ils évoquent une diminution de glaciers 12 à 15 mètres en moins de 10 ans. Ça paraît énorme, 12 à 15 mètres, le niveau diminue de 12 à 15 mètres en moins de 10 ans, Nicolas Caillon.
Oui, c'est énorme hein, sur les Alpes, c'est un petit peu le constat qu'on peut faire sur de nombreux glaciers et nous dans notre laboratoire, on a des équipes hein, qui travaillent justement à réaliser les bilans de masse sur ces glaciers et c'est important pour les populations qui vivent autour mais aussi pour les ressources en eau et puis plus globalement pour aussi l'économie du ski hein.
On peut rajouter que ça amène également des risques, des risques qu'on n'attendait pas, la formation de lacs en surface de glaciers qui peuvent se purger rapidement, des poches d'eau, le glacier de Tête Rousse par exemple au-dessus de Saint-Gervais a une poche d'eau qui aujourd'hui est sous haute surveillance, et puis les lacs qui sont devant les glaciers, en fait, bloqués par des moraines, par des dépôts de rochers, peuvent se vidanger très brutalement et créer des coulées de boue.
Mais alors, ces glaciers, vous nous avez dit, en 150 ans, leur masse a diminué de 50%. C'est-à-dire que c'est pas 50% des glaciers qui a disparu, mais chaque glacier a perdu 50% de sa masse. À terme, ça va jusqu'où? C'est-à-dire qu'on peut imaginer que dans un siècle ou deux, les glaciers aient complètement disparu?
Non, les glaciers n'auront pas complètement disparu pour une bonne et simple raison que déjà, on a d'énormes masses de glace qui sont en Antarctique et au Groenland. Et elles, on sait qu'il faudra des milliers d'années potentiellement pour qu'elles disparaissent de la surface de la planète. En revanche, pour les glaciers de montagne, par exemple, on prend les Alpes. On sait qu'à l'horizon de la fin du XXIe siècle, si on continue à émettre des gaz à effet de serre au rythme d'aujourd'hui, tous les glaciers qui culminent en dessous de 3500 mètres d'altitude auront disparu.
D'accord.
Il restera de la glace sur le sommet du Mont Blanc, mais en dessous de 3500 mètres, des glaciers naissant en dessous de 3500 mètres, il ne fera plus compter dessus.
Dans les Alpes aussi, il est donc urgent d'aller prélever un peu de glace avant qu'elle ne disparaisse. Petit flashback, c'était l'été dernier et ça devrait vous rappeler quelques souvenirs, Nicolas Caillon.
On est tous au col du Dôme, il y a deux chantiers en cours. Le chantier pour monter le camp de base et puis l'autre chantier où Victor et Vladimir s'affairent à monter le carottier. Pour l'instant, tout se passe bien, la météo est bonne. On a déjà monté sur le camp de base la tente de vie et deux petites tentes. On est dans les temps, c'est de bon augure pour le reste de la mission.
Alors on est obligé de faire une tranchée pour stocker nos caisses de carottes. On sera protégé des mauvaises conditions météo au cas où, pour pouvoir continuer à travailler, à stocker tranquillement. Et elles seront aussi protégées des petites variations journalières de température.
Anne-Sophie Ladonne qui trouve qu'on pourrait croire que c'est des lapins qui font leur réserve pour l'hiver à force d'enterrer vos carottes. C'était une mission qui a eu lieu l'été dernier, hein, le 15 août 2016 dans le massif du Mont Blanc. Elle a duré 2 semaines. Vous avez effectué, vous y étiez encore, hein, ouais. Nicolas Caillon, vous êtes de tous les coups. Vous avez effectué donc vos prélèvements sur le col du Dôme. Décrivez-nous cet endroit là encore. Ça avait l'air très honnêtement plus cool et moins compliqué que ce que vous avez fait il y a un mois en Bolivie.
Bon, ça n'a rien à voir, hein, à part le fait d'aller carotter de la glace, ça n'a rien à voir puisque on est à 3 heures de chez nous. On a nous au laboratoire un chalet à Chamonix qui nous permet d'être bien confortablement installés en bas. Et puis surtout, on monte en hélicoptère. L'hélicoptère permet de monter à cette altitude, permet de monter des charges de 400 kilos en une seule fois. À l'Illimani, il n'y a pas assez d'air à 6300 mètres pour monter les charges en hélicoptère. Donc c'est complètement différent en termes de logistique, mais ça reste une belle aventure. Et puis ouais, c'est vrai que là on est sur le toit pas de l'Europe hein, parce que c'est l'Elbrousse hein, qui est le plus haut sommet de l'Europe, mais le toit des Alpes, c'était aussi magique, très très intense et très très magique.
Ouais. Trois carottes de 130 mètres, donc à peu près la même distance que celle que vous aviez faite.
Voilà,
en
on
Bolivie.
Était 120 et quelques mètres, c'est ça. Trois carottes, ça s'est fait assez rapidement et puis encore une fois dans des conditions beaucoup plus faciles.
Pas de porteur cette fois-ci pour transporter tout ça à la base. Des hélicoptères se sont chargés de prélever les carottes pour les ramener où d'ailleurs? Voilà. Elles sont entreposées où ensuite ces carottes de glace? Parce que c'est pas le tout, mais si ça fond, on a perdu Jérôme Chaplaz.
On crée un trésor pour les générations futures et ce serait un peu bête de le perdre pendant les 2 premières années.
Oui, c'est ça.
Donc les carottes du col du Dôme, celles qui ont été forées au pied du Mont Blanc l'année dernière, sont aujourd'hui dans nos entrepôts frigorifiques à Grenoble, en attente que la cave en Antarctique soit créée d'ici 3 à 4 ans. Et les carottes boliviennes, elles sont à bord d'un porte-container qui vient de franchir le canal de Panama et il doit voguer quelque part dans l'océan Atlantique et on espère que les carottes arriveront à bon port à Grenoble le 17 août si tout va bien.
C'est un transport sous haute surveillance, donc il doit y avoir des gens qui accompagnent, qui vérifient la température. Là, si la chaîne du froid est rompue, c'est foutu.
Exactement, c'est au cœur de notre métier et là je peux saluer typiquement les équipes de ULIS, c'est une unité du CNRS qui s'occupe des logistiques compliquées. Et c'est eux qui typiquement ont mis en place cette logistique qui fait que là, toutes les 3 à 4 heures, on a l'information sur la température en ce moment même à l'intérieur du conteneur. Et on est prêt à intervenir, ou en tout cas faire intervenir l'équipe du porte-conteneur en cas de problème.
Parce que là, si on vous appelle, il va falloir...
La nage, ça va faire un petit peu loin.
un petit peu loin pour le canal du Panama. Ouais. Et puis le lieu de stockage ultime, hein, vous l'avez dit, pour tous ces échantillons de glace qui renferment des archives de la planète, ce sera le plus grand congélateur du monde, l'Antarctique. Vous allez nous raconter ce projet dans un instant, le temps d'un bivouac sur France Inter.
Un homme assis au soleil couchant, s'assoupit. Il avait tout ce jour essuyé la poussière de ce réverbère maudit. Le voilà qui s'endort au son des claquetis. Aussi loin aujourd'hui, aussi loin.
Réverbère, Laura Kahn sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Un jour, à la côte, en buvant un whisky, dans une caravane, nous étions une petite équipe à l'abri le soir, quand j'ai mis un petit échantillon de glace dans le whisky, j'ai vu les bulles s'en échapper. Et je me suis dit, mais ces bulles, peut-être qu'elles sont les témoins de la composition de notre atmosphère au moment où la glace s'est formée. Alors ça, il nous a fallu un petit moment pour le confirmer, mais ça a été une véritable découverte.
La voix de Claude Lorius, l'un des pionniers de la glaciologie, hein, dont le nom revient de temps en temps dans le temps d'un bivouac. C'est lui qui a le premier eu cette idée autour d'un verre de whisky avec ce petit morceau de glace issu des carottes prélevées en Antarctique, de faire parler les glaces anciennes, Jérôme Chaplaz.
Oui, c'était une très belle intuition et c'est toujours avec beaucoup d'émotion que j'entends la voix apaisée de Claude raconter cela. Ça a été la naissance d'une science. Ça a été la naissance d'une science.
On était dans les années 50, hein, 1950.
Là, c'était en 1965. 65. Claude était chef d'hivernage à la base française Dumont-Durville, sur la côte antarctique, et conduisait effectivement un des tout premiers forages dans la glace pour voir tout simplement quel genre d'informations on pourrait tirer de cette matière. Et l'intuition, il l'a eu en 1965, et les résultats scientifiques, ça a été 22 ans plus tard, avec une publication absolument incroyable dans la fameuse revue Nature en 1987, montrant pour la première fois que l'évolution climatique naturelle et la quantité de gaz à effet de serre présente dans l'atmosphère allaient de concert l'un avec l'autre. Mmh. Et c'était une mise en perspective considérable du fait qu'aujourd'hui, les gaz à effet de serre sont en croissance permanente dans l'atmosphère en raison des activités humaines et qu'il fallait effectivement faire quelque chose si on ne voulait pas que la planète se transforme en brasier, en quelque sorte. Ouais.
Donc on commence à comprendre que dans ces petites bulles de glace, on a les archives de la planète, on comprend la température, on comprend la composition de l'atmosphère. À quoi on a accès d'autre que la quantité de CO2? Ça va plus loin que ça, en fait, ces archives.
C'est comme j'ai l'habitude de dire, on a un alphabet naturel dans cette glace et nous, notre rôle, c'est de déchiffrer finalement ces quelques lettres qui sont écrites par la nature. Le nombre de lettres, en fait, est assez incroyable. Je vais vous donner un exemple tout récent. Des collègues américains viennent de découvrir que la quantité de plomb présente dans la glace d'un forage réalisé dans les Alpes était pratiquement venue à un niveau de zéro au moment de la peste noire, dans les années 1350.
Pour quelle raison ?
Eh bien, parce que la peste noire a tué des millions et des millions d'Européens, ouais. Et que tout simplement les mines ne tournaient plus, la sidérurgie autour, la métallurgie ne fonctionnait plus, et donc les émissions de métaux lourds dues aux activités humaines étaient stoppées net.
Nos activités s'impriment dans la glace, et pour des siècles, en tout cas s'imprimaient pour des siècles, avant que nous la fassions fondre. Et faire parler ces glaces, est-ce que vous vous attachez à faire avec les carottes de glace entreposées à Grenoble dans la fameuse carothèque?
Ici, on est dans une des chambres froides du laboratoire. Là, dans cette boîte, on voit qu'on a des échantillons qui viennent de Vostok, en Antarctique. Donc voilà, chaque échantillon est bien emballé dans sa gaine. Et donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est préparer ces carottes pour faire plus tard des analyses CO2. Et on a là des scies qui vont nous permettre, en fait, de découper la carotte. Tout le travail qu'on fait dans ce laboratoire, c'est... réussir à aller extraire l'information sur la composition passée de l'atmosphère, préservée dans ces toutes petites bulles dans la glace polaire.
Nicolas Caillon, on est à Grenoble, hein, dans vos labos où vous stockez ce trésor de glace que vous allez prélever dans les glaciers du monde. Il a l'air très minutieux finalement ce travail pour faire parler les glaces, parce que on a donné les grands principes, mais concrètement, quand il s'agit d'aller récupérer ces petites bulles enserrées dans la glace, comment on s'y prend ?
Oui, en effet, c'est assez complexe, parce que l'idée c'est d'aller extraire des informations sans les polluer par l'air ambiant ou autre chose. Hein. Oui. Donc, on a mis en place des protocoles assez précis et non polluants qui permettent soit d'aller regarder la composition de l'eau de cette glace, qui constitue cette glace, la composition chimique, soit d'aller regarder la composition des bulles d'air. Mmh. Selon ce qu'on veut regarder, on va enlever, nettoyer plus ou moins notre échantillon. Et puis, si on regarde le contenu en poussière, il va falloir travailler dans une chambre sans poussière. Donc non, des conditions très de propreté assez poussées et puis qui permettent justement d'extraire toutes les informations qu'on veut extraire.
Et Jérôme Chaplaz, il y a peut-être des informations qu'on ne cherche pas encore à extraire, mais qu'un jour, on arrivera ou on pensera à extraire de ces glaces. Il y a un côté, il y a des secrets enfouis dans cette glace dont on n'a même pas idée finalement.
C'est un pari confiant sur l'avenir. Je suis très très confiant que la science des décennies et siècles à venir révélera des secrets enfouis dans la glace auxquels on n'a aucune idée aujourd'hui. Je vais prendre un exemple très bête, hein, mais pour le coup, on a une idée. C'est le contenu biologique de la glace. Ouais. Il y a des bactéries, il y a des virus qui sont transportés dans l'atmosphère, qui sont déposés avec les flocons de neige et stockés sur le très long terme à l'intérieur de ces carottes de glace. Comment les extraire sans les polluer par l'environnement bactérien extrêmement riche de notre atmosphère pour étudier l'évolution du génome, pour étudier quand potentiellement un virus devient dangereux pour l'homme? Ce sera peut-être des questions majeures en science des carottes de glace dans 100 ans ou que sais-je.
Alors évidemment, si on veut pouvoir les étudier dans 100 ans, il faut qu'elles soient encore là, ces carottes de glace. Et même s'il y a certainement des chambres froides très performantes à Grenoble, la température du coin laisse penser qu'on ne sait pas si elles pourraient être conservées pendant des siècles et des siècles là. Donc vous vous êtes dit, allons les mettre, on le disait, en Antarctique, là où on est sûr que la température ne baissera pas. On en est sûr d'ailleurs, parce qu'on entend souvent parler du changement climatique. Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'en Antarctique, il fera jamais au-dessus de zéro ?
L'Antarctique se réchauffe comme l'essentiel de la planète, un réchauffement qui est lent mais qui est là. Il faut quand même imaginer qu'on part de très très froid. Cette cave-là, on va la créer à la base franco-italienne Concordia, située à 1100 km à l'intérieur des côtes. La température moyenne de ce site est de moins 54 degrés Celsius. Donc imaginez, même un réchauffement de 5 degrés en l'espace de 100 ans, c'est pas ça qui va mettre nos carottes en danger. Donc on sait qu'on est tranquille pour potentiellement des millénaires.
C'est-à-dire que quelle que soit l'ampleur du changement climatique, on est sûr qu'il y aura encore dans des millénaires de la glace. Côté pôle sud, hein, on est
côté
d'accord.
Côté pôle sud, on est bien d'accord. Et vraiment, sur le plateau antarctique, on parle de ce continent qui est recouvert en moyenne de 2 km d'épaisseur de glace.
2 km d'épaisseur
de
c'est
glace.
Énorme.
C'est énorme. Colossal. Imaginez 25 fois la surface de la France recouverte de 2 km de glace en moyenne. C'est absolument colossal.
Pour qu'on se rende bien compte, si toute cette eau glacée, cette eau gelée qui est posée sur le continent, si elle venait à fondre, ce qui n'est pas prévu, si elle venait à fondre, le niveau des océans...
Le niveau des mers s'élèverait de l'ordre de 50 mètres.
Oui.
C'est assez considérable. C'est la réserve, 70% de l'eau douce mondiale, c'est la neige et la glace de l'Antarctique.
On est bien du côté pôle sud, du côté pôle nord en Arctique. Il est possible qu'un jour la glace ait...
Oui, dans l'hémisphère nord, en fait, la grosse masse de glace, c'est l'île du Groenland, hein, qui est recouverte de jusqu'à 3 km d'épaisseur de glace. Mais le volume est beaucoup plus petit que ce que l'on peut retrouver en Antarctique.
Alors revenons à cette cave gelée que vous voulez installer à la station Concordia, hein, au milieu de ce continent ce continent antarctique. Puisque vous vous adressez à des civilisations qu'on ne connaît pas, à des générations très lointaines, c'est-à-dire que peut-être potentiellement des civilisations qui nous séparent d'autant que les Égyptiens et leurs pyramides. Peut-être que dans 4000 ans, on se servira de vos carottes de glace là-bas. Non mais, c'est ça l'idée.
C'est possible et effectivement, ça nous pose ne serait-ce que des questions de transmission de l'information.
Et oui, quelle signalétique on met quand on s'adresse à des gens de dans 4000 ans.
C'est mon collègue Joël Savarino qui d'ailleurs était avec Nicolas sur l'Inimani, qui a à bon escient soulevé la question. On ne s'était même pas posé finalement. Quelle est la chance que l'existence même de cette cave... L'information de l'existence de cette cave perdure à travers les âges. Eh ben, il va falloir effectivement qu'on trouve la solution. Mais à tout le moins, on sait que cette cave, elle, sera en très bonne condition, même à des horizons de siècles à millénaires.
Oui, d'accord. Donc là-dessus, vous êtes sûr que la glace...
C'est la meilleure des chances à jouer.
Sauf que, quand on veut étudier cette glace, j'ai bien compris, on détruit l'échantillon.
On ne le détruit pas complètement. D'abord, on invente aujourd'hui des méthodes qui sont non destructives. On peut accéder aux informations sur ces petites traces d'éléments chimiques présents dans la glace, sans même littéralement toucher la glace. C'est des méthodes qui sont en train de se mettre en place. Et puis ensuite, la façon dont on procède, c'est qu'en fait, on prend un tout petit échantillon de la carotte pour analyser tel ou tel composé chimique. On en laisse l'essentiel en stockage pour d'autres investigations.
Vous allez répondre dans un instant aux questions des auditeurs. Et puis, vous nous raconterez un autre projet un peu fou que vous avez lancé en Antarctique, au nom de code tiré de la science-fiction, le projet Subglacior.
Un rêve, je ratonne
Dance of the Eagle, chanté par Senko Namchilak sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Bon, voici un échantillon, un quart de carotte qui est stocké ici et qui a été foré à 3100 mètres de profondeur. Donc on stocke ici la moitié de la carotte par sécurité, donc c'est parce que c'est plus facile d'avoir un stockage ici au froid à Domsé que de stocker en Europe où il peut y avoir des problèmes de perte, de fonte des carottes.
Ça y est, là nous sommes arrivés en Antarctique, on sent la neige qui crisse sous nos pas, des carottes qui ont déjà été prélevées en Antarctique et qui sont stockées dans une des caves. C'est pas celle que vous projetez de construire, hein, Jérôme Chaplaz, mais il existe déjà des caves gelées en Antarctique pour stocker ces carottes. Et là, si on a été attentif à ce que disait ce chercheur, une carotte de 3200 mètres, hein, 3 km 2, on est descendu, on a carotté à 3 km 2 de profondeur, ça date de 2000. C'était un projet Epica, je crois, le nom de ce projet. On remonte à combien d'années en arrière quand on fait ça?
Oui, c'était notre collègue Éric Lefebvre qui parlait de ce projet Epica. Eh bien écoutez, Epica, ça a été effectivement un forage conduit à la base Concordia. On a pratiquement atteint le socle rocheux. On s'est arrêté 5 mètres avant pour pas polluer l'eau qui est en dessous du glacier. Et c'est 3270 mètres d'épaisseur de glace. Hein. Concordia est à 3200 mètres d'altitude et le socle rocheux est en dessous du niveau de la mer. Mmh. On remonte à 800 000 ans. C'est la glace la plus ancienne jamais remontée à la surface de à la surface de la planète.
Est-ce qu'on pourrait faire mieux?
C'est ce qu'on vise aujourd'hui. Ouais. Pas pour battre un record. En fait, on essaye d'atteindre de la glace formée il y a 1,5 million d'années pour étudier une transition climatique majeure qui s'est produite il y a environ 1 million d'années, dans laquelle, en fait, le rythme des successions de glaciations et de périodes chaudes que connaît la planète depuis environ 3 millions d'années a changé brutalement. On est passé de succession tous les 40 000 ans de périodes chaudes à tous les 100 000 ans, avec des glaciations beaucoup moins intenses il y a plus de 1 million d'années par rapport à celles que l'on connaît depuis 1 million d'années. Mmh. On n'en connaît pas les raisons, on pense que les gaz à effet de serre ont joué un rôle là-dedans, et c'est quelque part ce qu'on va chercher dans cette glace.
Avec ce fameux projet, j'en donnais le nom de code, Subglacier, c'est le nom de la sonde qui vous permet d'envisager d'aller si profondément.
Oui,
le nom évoquera peut-être quelque chose aux fans de bande dessinée.
Pour les amateurs de bande dessinée, Black et Mortimer, les sarcophages du 6e continent.
Ça vient de là
c'est le nom du submersible de Black et Mortimer, ouais. Leur permettant d'aller dans le lac Vostok, sous la base soviétique Vostok, pour regarder ce que les soviétiques conduisent là-bas dedans.
Voilà.
Donc c'est un petit clin d'œil. Et écoutez, cette sonde, c'est une invention. Ça fait 5 ans qu'on travaille dessus avec l'équipe technique du laboratoire et puis quelques autres collègues. On a testé cette sonde pour la première fois l'hiver dernier à Concordia. On y retourne cet hiver pour tester une version améliorée. L'idée, en fait, c'est de déterminer en très peu de temps, si possible en un mois sur le terrain, si un site dans lequel on pense qu'il y a de la glace de 1,5 million d'années renferme vraiment cette glace-là, et déjà d'obtenir les premières informations importantes sur l'évolution du climat.
Alors, quelques questions sont arrivées pour vous sur la page de l'émission et sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac. Il y a Annick qui s'inquiète un petit peu et qui vous demande, il y a des micro-organismes dans les glaces, qu'allez-vous faire pour éviter les contaminations, vous demande-t-elle, voire le traité de protection environnementale qui demande des études d'impact préliminaires. Est-ce que vous n'allez pas nous réveiller des virus mortels avec vos expériences?
C'est une très bonne remarque. D'abord, tant que les carottes de glace que l'on amène des différents continents en Antarctique restent gelées, il n'y a pas de risque, effectivement, leur contenu bactérien, qui sera différent de celui que l'on peut trouver en Antarctique, soit relâché dans la nature. Ensuite, il faut bien voir que l'Antarctique, c'est une masse de glace considérable, mais qui relâche de la glace dans l'océan austral qui en fait le tour, en permanence. On a entendu le fameux iceberg du Larsen C qui vient de partir. Cette masse de glace, c'est de la glace qui contenait des bactéries formées il y a très longtemps, qui se relâche naturellement dans l'océan. Donc c'est un processus, de toute façon, tout ce qu'il y a de plus naturel.
Nicolas Caillon, Damien demande, y a-t-il eu des périodes dans l'histoire de la Terre où il n'y a pas eu de glace du tout, sans glace?
Bah oui, ça a existé, hein, mais à des échelles de temps qui sont bien au-delà de celles que nous on regarde, hein, million d'années, c'est tout petit, hein, par rapport à l'échelle de la Terre. Mais oui, il y a eu des périodes sans glace, et il y a eu des périodes aussi où des hypothèses où il y a eu que de la glace, hein, on parle de snowball Earth. Ouais. Donc il y a eu des périodes assez étranges et qui ressemblent en rien à ce que nous, à notre planète aujourd'hui.
Faut remonter jusqu'où, Jérôme Chaplaz, pour avoir une Terre sans glace?
Alors une Terre sans glace, ça a été l'époque des dinosaures, typiquement, la fin du Crétacé, l'ère secondaire. Effectivement, la planète était pas du tout glacée. Il y a 700 millions d'années, comme disait Nicolas, on pense que la Terre était une boule de neige. littéralement complètement glacé, avec des océans sous de la glace de mer, hein, mais la surface était blanche, totalement.
Vos prochaines expéditions, Nicolas Caillon, vous qui êtes apparemment pour le moment de toutes les expéditions, vous êtes allé en Bolivie, vous êtes allé sur dans les Alpes, c'est quoi la prochaine?
Je vais retourner en Antarctique en décembre, alors bien plus facile que la Bolivie en termes logistiques et de confort, puisque là-bas on a des chambres bien chauffées, donc voilà, ça va être différent.
Et pour Ice Memory, Jérôme Chaplaz, au final, vous voudriez faire une vingtaine de glaciers à travers toute la planète. Je crois que le prochain visé, c'est le Caucase en Russie. Qui finance tout ça?
Effectivement, c'est un peu l'enjeu. Les glaciers, on les connaît. Les finances, on les connaît un petit peu moins. La particularité d'Ice Memory, c'est qu'en fait, c'est du mécénat qui nous soutient. On apporte le savoir-faire, les outils des personnels, des institutions, CNRS, IRD, IPEV, etc. Mais l'argent, en fait, vient des mécènes, que ce soit des philanthropes, des fondations, des entreprises. Pour l'instant, on a à peu près la moitié du budget pour gérer notre projet. On cherche l'autre moitié, donc à bon entendeur pour nos auditeurs.
Donc vous cherchez, même les particuliers et les auditeurs peuvent vous financer ou c'est surtout des entreprises que vous cherchez
pour... On a effectivement lancé une opération de crowdfunding, comme on dit, de financement participatif l'hiver dernier, qui a relativement bien marché. Peut-être qu'on en refera une autre. Sinon, ce sont plutôt des fondations et des mécènes ou des philanthropes qui en ont effectivement les moyens.
Est-ce qu'on pourrait, c'est une autre question qui est arrivée sur Internet, pourrait-on ralentir la fonte des glaciers? On voit parfois ces systèmes de bâches que l'on dispose sur les glaciers. Ça a un sens de faire ça? Ça sert à quoi?
Ça a un sens à très très court terme, mais c'est un peu un pansement sur une jambe de plâtre. On peut effectivement jouer sur la quantité d'énergie qui est réfléchie à la surface du glacier en mettant du blanc plutôt que du noir. Ça a un sens, mais ça dure un temps. Il y a un moment où la température, de toute façon, l'emporte et le glacier disparaît.
Vous deux qui êtes des montagnards, des aventuriers, on l'a compris, est-ce que vous vous êtes fait parfois des frayeurs lors de vos expéditions, Nicolas Caillon?
Moi, il y a juste la mission sur les Limani. J'étais
en Bolivie,
j'étais à la coordination avec d'autres collègues du camp de base. Et puis pendant deux jours, nos collègues là-haut étaient coincés dans leur tente avec des rafales de 100 km/h. On gérait, on était dans la maîtrise du moment, mais... des fois, on a un peu peur. Alors, on dort avec le téléphone, on dort avec la radio pour espérer avoir des nouvelles rapidement.
Jérôme Chaplaz, rapidement.
Oui, moi, ça a été la panne d'un groupe électrogène alors que j'étais au milieu de la chaîne transantarctique avec des collègues. Et là, il y a des moments de grande solitude.
Ouais. Je vous pose cette question parce qu'on va parler d'un des grands drames qui est survenu dans les Alpes. Justement, c'était en 1956. On nomme cette affaire l'affaire Vincent Don et Henri, deux jeunes alpinistes qui, au cœur de l'hiver, se sont retrouvés coincés à 4 000 mètres d'altitude sur le Mont Blanc. Cette histoire a marqué le monde de la montagne et vous lui avez consacré une longue enquête de 2 ans. Yves Balu, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Alors vous êtes 3 Grenoblois autour de la table. Grenoble est en force pour cette émission, pour ce bivouac. Vous êtes l'invité de la deuxième heure du temps d'un bivouac, écrivain, historien, passionné d'alpinisme. C'est une histoire incroyable qui s'est déroulée sous les yeux de la France entière en 1956.
C'est un drame, il y a eu beaucoup de drames en montagne. Celui-là, il est particulier parce que la responsabilité n'est pas seulement celle des alpinistes, celle de la société qui n'a pas réussi à les sauver. Et à mes yeux, la responsabilité de la société, elle est imprescriptible. Autrement dit, aujourd'hui encore, on est concerné.
Vous allez nous raconter l'enchaînement des malchances et des mauvaises décisions qui ont abouti à cette catastrophe dans un instant. Merci Nicolas Caillon et Jérôme Chaplaz.
Merci.
Retour à Grenoble et puis soyez prudents lors de vos prochaines grandes expéditions et sur les glaciers ou en Antarctique.